Le message de ce matin va poursuivre le thème que notre frère Ivan a commencé tout à l'heure. Vous savez que nous sommes aujourd'hui au chapitre 4 du livre de la Genèse, pour ceux qui suivent mes prédications. Le chapitre 1er nous donne le récit du commencement du monde, de la création des cieux et de la terre et des êtres vivants. Le chapitre 2 focalise sur le commencement de l'être humain, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Le chapitre 3 nous parle du commencement du péché, Adam et Ève qui succombent à la tentation du diable et qui sont expulsés du jardin de Dieu, donc de la présence de Dieu. Et maintenant au chapitre 4, ce chapitre nous parle du commencement de l'accroissement de la race humaine sur la terre, et nous donne le récit d'une démanifestation du péché de l'homme, l'intrusion de la violence dans le monde. Il s'agit du premier meurtre de l'histoire humaine. Et nous allons voir, ça se passe entre deux frères, fils du même père et de la même mère, Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève. Et en lisant ce récit, on se pose la question, les questions: quel était le mobile de ce crime? Comment a-t-il été puni? Et quelles conséquences? Quelles conséquences pour cette première famille et même pour l'humanité? Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, il abhorra un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu le relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Ce sera pour la prochaine fois. Nous allons nous arrêter ici. Le chapitre 3, je vous rappelle, n'est-ce pas, avait, dans le chapitre 3, le diable avait suggéré à Adam et Ève que leur désobéissance à Dieu ne leur apporterait que du bonheur. Tout irait bien. Il a même dit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Hélas, on voit déjà par ce récit que finalement c'est le contraire, n'est-ce pas, qui se produit. Le péché n'apporte finalement que du malheur. La preuve, nous l'avons ici devant nos yeux. Pensons à la douleur d'Adam et Ève, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont appris que leur fils Caïn avait été tué par son frère, leur propre fils à eux. Que leur fils Abel, pardon, avait été tué par Caïn. On mélange souvent les deux noms. Souvent, vous connaissez la vieille blague, n'est-ce pas, qui a tué Caïn? On ne le sait pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Et donc, on voit que le péché n'apporte que du malheur. Nous avons la preuve ici. La douleur d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont constaté que leur fils avait été assassiné par leur autre fils, Caïn. Donc, ce premier couple commence à payer très, très cher, lourdement les conséquences de leur désobéissance à Dieu. En préparant cette méditation, j'ai lu l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont décidé d'aller à un cinéma drive-in. Je pense que ça se passe aux États-Unis. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ça ici en Europe. Et comme le prix leur semblait trop cher, ils ont décidé de trouver un stratagème pour payer moins cher, pour ne payer qu'un seul billet d'entrée. Lorsqu'ils s'approchent du cinéma, le mari rentre dans le coffre de la voiture, donc il ferme le coffre, et c'est sa femme qui arrive au guichet, à la billetterie, pour acheter son ticket, et donc elle n'a payé qu'un seul ticket. Le mari était dans le coffre, le contrôleur n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un dans le coffre, ça se ne voyait pas. Pardon ? Je ne sais pas. Et donc ensuite, lorsque la voiture arrivait dans le parc où ça se passait, la femme devait sortir, aller vers l'arrière du véhicule et délivrer son mari. Tout s'est passé comme prévu, sauf que lorsqu'ils sont arrivés dans le coffre, ils ont remarqué tout bêtement que la clé du coffre était dans la poche de son mari. Et il avait oublié, donc je ne sais pas ce que c'était comme voiture, mais son épouse ne pouvait pas ouvrir le coffre. Et devant eux, il y avait donc beaucoup de voitures, etc. Et finalement, ça s'est très mal terminé parce que la femme et ensuite l'homme, ils ont dû faire face d'abord au directeur du cinéma, ensuite à la police et aux secours qui sont venus pour ouvrir, pour enfoncer la portière du coffre. Donc, ça leur a coûté très, très cher. Ils n'ont pas pu voir le film. Ils ont payé beaucoup plus cher que s'ils avaient acheté les deux tickets, s'ils avaient été honnêtes. Voilà le chemin du péché. Nous pensons retirer un maximum de plaisir, de fruits, et finalement c'est le contraire qui se produit, ça se termine toujours très très mal, trop mal, le prix est souvent trop élevé. Or le récit que nous venons de lire nous montre les vraies conséquences du péché. Elles ne sont pas drôles. Les conséquences terribles qui peuvent aller jusqu'au meurtre d'un proche, au meurtre d'un frère. Et au fur et à mesure qu'on lit ce livre de la Genèse, on va constater que les choses, finalement, ne vont qu'à s'aggravant, puisque l'homme va s'enfoncer de plus en plus dans le mal, dans le péché, au point que le Créateur sera obligé d'envoyer le déluge, n'est-ce pas, pour détruire la race humaine. En fait, c'était la famille d'Abel qui a été épargnée. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a vraiment l'impression que les choses ne s'améliorent pas. Ce passage commence par parler donc de cette première famille de la Bible, de la vie de ce couple, la vie conjugale d'Adam et Ève, et de la vie de leurs fils Caïn et Abel. Et ça vaut peut-être la peine de le rappeler encore aujourd'hui, au moment où ceux qui sont au pouvoir veulent nous proposer ou nous imposer un changement de civilisation, n'est-ce pas ? Que dans la Bible, le cadre idéal prévu pour avoir des enfants, c'est le couple, c'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme. Et nous devons dire ce que la Bible dit. La société choisit ce qu'elle veut, mais nous disons la parole de Dieu. Ça, c'est le cadre idéal. Et c'est ce cadre-là, institué par le Créateur, dans ce cadre-là qu'Ève va donner naissance donc à Caïn et à Abel. Que savons-nous de ces deux frères? De leur enfance, on ne sait strictement rien. Le texte ne le dit pas. Alors on peut imaginer, comme dans toute famille normale, les deux frères ont dû jouer ensemble quand ils étaient petits, pendant leur enfance, n'est-ce pas? Ils ont dû aussi se chamailler, parce que ça fait partie d'une famille normale. Les enfants, les frères se chamaillent. Le mot frère a souvent l'idée de solidarité, mais on sait que la fratrie est source souvent de tensions, de conflits. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé plus tard à ces deux frères. Ils ont grandi ensemble, mais arrivé un peu plus tard, les choses se sont mal passées puisque ça aboutit au meurtre d'Abel. On peut dire aussi des choses sur le nom de chacun. Le nom Caïn désignait le fils donc aîné comme un être produit avec l'aide du Créateur, de l'Éternel. Ève le dit elle-même, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle avait sans doute été étonnée d'avoir participé à l'œuvre créatrice de Dieu en donnant naissance à un être humain. Et en donnant ce nom à Caïn, elle reconnaît donc l'activité de Dieu dans le cadeau de ce fils qu'elle a obtenu avec l'aide de l'Éternel, comme elle le dit. Son frère Abel a quant à lui un nom particulièrement étrange, puisqu'il signifie buée, vapeur, souffle, ou encore vanité. C'est le même mot que le leitmotiv de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Alors dans le prénom d'Abel apparaît déjà toute l'expérience de la fragilité humaine, comme s'il n'était pas destiné donc à vivre très longtemps. Alors qui aurait pu aujourd'hui donner un nom pareil à son fils, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, certains commentateurs de la Bible se posent la question, est-ce que ce nom a été vraiment donné à sa naissance par sa mère lorsqu'elle a constaté la faiblesse de ce petit être qui était sorti de son ventre? Ou alors, comme certains le pensent, est-ce que c'est un nom posthume qui lui a été donné après son assassinat? Puis ils ont grandi, les petits ont grandi, on peut dire comme ça, n'est-ce pas? Et le récit nous fait connaître donc leur métier. Abel devient berger et Caïn cultivateur. Les avantages du jardin d'Éden étaient bel et bien derrière eux. Maintenant, c'était à la sueur de leur front qu'ils devaient chercher la nourriture, le vêtement, l'abri, etc. Et c'est intéressant, d'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse pour dire que c'est intéressant de voir que ce passage ne tient pas compte de l'idée très répandue aujourd'hui que l'humanité est passée par trois grands stages différents, la chasse, l'élevage et l'agriculture. Ici, dans le texte, dès le départ, dès le commencement, l'élevage et l'agriculture sont à l'origine même de l'homme, et écartent donc toute idée d'un être sauvage au début, n'est-ce pas, de la création. Et puis un jour, les deux frères décident de faire des offrandes à Dieu. Certains passages traduisent le mot par sacrifice, par culte, donc je pense que c'était une manière de louer le Seigneur. Comment leur est venue cette idée? Le texte ne le dit pas non plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de trous dans ce passage, beaucoup de questions qu'on se pose, et il faut sans doute chercher les réponses ailleurs. Mais ce que le texte dit, c'est que Caïn offre les produits de la terre. C'est normal, il est agriculteur. Et Abel offre le premier-né de son troupeau. Normal, il est éleveur. Et c'est là que commence l'histoire, car le problème, nous dit le texte, c'est que Dieu n'a pas agréé l'offrande, le culte, le sacrifice de Caïn. Il a agréé l'offrande d'Abel, mais pas celle de son frère. Le texte ne précise pas non plus la raison. Pourquoi Dieu accepte l'un et pas l'autre? On ne sait pas. Était-ce l'attitude de Caïn qui n'était pas conforme à ce que Dieu attendait de lui? Était-ce son offrande qui ne correspondait pas à ce que Dieu attendait d'elle? Était-ce autre chose, une autre raison quelconque? Le texte ne le dit pas non plus. Ce que nous savons par la Bible, c'est que ce que Dieu attend de ceux qui s'approchent de lui pour l'adorer, c'est une motivation pure. C'est une motivation pure et sincère dans l'obéissance à ce qu'il nous demande dans sa parole. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir sa parole. Jésus disait à la femme samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On est en droit donc de s'interroger si l'offrande de Caïn, son culte, était vraiment une offrande sincère, un hommage sincère et véritable à l'Éternel. En fait, le vrai problème, je pense, n'était pas uniquement lié à la forme, au contenu de son offrande, mais surtout à l'homme lui-même, à son cœur. Parce que quand on lit le verset 5 dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Le texte ne dit pas uniquement sur son offrande, il dit bien sur Caïn et sur son offrande. Ce n'est pas simplement l'offrande, le culte de Caïn qui pose problème, mais c'est aussi sa personne. C'est Caïn lui-même qui n'obtient pas un regard favorable de la part de Dieu, du Dieu qu'il adore. En fait, la source du problème, sans doute, était dans son cœur, dans le cœur de Caïn. Et le symptôme, donc, était le type d'offrande qu'il a apporté au Seigneur et qui ne correspondait pas à ce que Dieu attendait. Alors, je vais expliquer ce que je viens de dire. La Bible dit qu'il y a des conditions à remplir pour nous approcher de lui. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lisons-nous dans la lettre aux Hébreux. Au psaume 15, le psalmiste dit à la manière de l'Ancien Testament, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» C'est-à-dire dans le lieu d'adoration, autrement dit, « Qui peut s'approcher de toi pour t'adorer ?» Et le psalmiste répond, « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, celui qui ne calomnie point avec sa langue, qui ne fait point de mal à son semblable, qui ne jette pas le déshonneur sur son prochain, qui ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, etc. etc. » Lisez le psaume 15. Oui. Il y a donc des conditions que la parole de Dieu nous présente, n'est-ce pas? Nous sommes invités en tout cas à nous débarrasser de tout ce qui pourrait brouiller, parasiter notre communion avec Dieu. Mais je pense aussi aux prophètes. Les prophètes, on le sait bien, et notamment le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, mais les autres aussi, condamnaient le culte superficiel, juste le produit de nos lèvres. Surtout lorsque la vie de l'adorateur était vécue en contradiction avec ce qu'il disait ou chantait devant le Seigneur. Je pense à ce passage d'Ésaïe, le premier chapitre, où il dit, entre autres, de la part de Dieu, « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux quand vous multipliez les prières. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il n'y a pas de doute, il y a des choses qui sont incompatibles avec l'adoration telle que Dieu la veut, n'est-ce pas? Et peut-être que le cœur de Caïn, son cœur n'était pas en condition d'offrir ce culte à son Créateur, ce culte vrai et sincère au Seigneur. Mais je pense que ce récit nous donne encore d'autres indices. Même si la réponse n'est pas tout à fait claire et nette, il y a des indices dans le texte qui nous permettent d'examiner le problème chez Caïn. D'abord, il faut dire que nous ne savons pas exactement ce que Dieu avait dit à Adam et Ève concernant le culte et à Caïn et à Abel. Le texte ne le dit pas non plus. En matière d'adoration, au début, on ne sait pas trop. Ceci dit, le texte semble vouloir dire qu'il savait ce qu'il fallait faire exactement pour s'approcher de Dieu, pour adorer Dieu. Écoutons ce que Dieu dit à Caïn au verset 6 et 7. « Pourquoi te mets-tu en colère ? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, notez bien cette phrase, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Je pense que ces paroles du Seigneur sont très intéressantes. Si tu agis bien, mais si tu agis mal, la question de Dieu implique clairement, me semble-t-il, que Caïn n'avait pas agi selon ce qui est bien. Et pas simplement à ce moment-là, quand il a su que Dieu n'a pas accepté son offrande. Je pense que ça vient déjà d'avant, n'est-ce pas? Autrement dit, il n'avait pas agi selon la volonté de Dieu. Et si Dieu lui reproche de faire ce qu'il a fait, c'est que le problème de Caïn n'était pas disons, un manque d'instruction sur comment il fallait s'approcher de Dieu, mais plutôt un manque de consécration et peut-être même de rébellion vis-à-vis du Créateur. Parce que quand de manière délibérée, on fait autrement que ce que Dieu nous demande, et je pense que parfois ça nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas? Nous, les évangéliques, sommes très attachés à la parole de Dieu, on sait ce que la Bible dit, mais on va faire autrement, parce que, oh mais bon, hein. Quand on agit de manière délibérée, on fait autrement que ce que Dieu nous demande, on risque fort bien que Dieu ne nous accepte pas, que Dieu n'accepte pas en tout cas notre adoration, notre culte. Très probablement, comme certains aujourd'hui, Caïn voulait venir à Dieu, mais à sa manière, et non pas à la manière de Dieu. Or, l'offrande de Caïn ne répondait visiblement pas à l'attente de Dieu, puisque Dieu ne l'agrée pas. Et Dieu, d'ailleurs, lui montre qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de présenter. Le texte dit « Dieu ne porta pas un regard favorable ni sur lui, ni sur son offrande. » Une chose est donc claire, ce n'était pas simplement l'offrande, le culte qui posait problème, mais c'était Caïn lui-même qui n'avait pas la faveur de Dieu sur lui, car Dieu connaissait mieux que quiconque son cœur. Mais quand je lis ce passage, qui est un passage difficile, bien sûr, ce n'est pas facile, puisque quand on le lit, il nous manque quelques éléments, qu'on va les retrouver ailleurs. Mais quand je lis ce passage, je pense à ses premiers destinataires. On sait bien que les premiers destinataires de ce texte, c'était les Israélites, n'est-ce pas? Et je me demande, mais comment les Israélites, eux, ils ont reçu ce passage, ce texte de la Bible? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu de grandes difficultés à comprendre ce que l'auteur voulait dire par ce passage. Et surtout par rapport à l'offrande de Caïn. Il faut savoir qu'ils ont reçu le texte comme faisant partie d'un ensemble de livres de la Bible, les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Et à ce titre, je pense qu'ils ont compris que l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans le sacrifice d'un animal pur et sans tache, comme nous lisons dans d'autres textes du Pentateuque. C'est-à-dire sans le sacrifice d'une victime qui verserait son sang pour le péché de celui qui l'offrait. L'homme qui offrait en sacrifice un agneau montrait par cet acte sa conscience d'être pécheur devant Dieu et il montrait en même temps sa repentance devant l'éternité, l'Éternel. C'était un acte d'adoration et de confession de péché. C'est ce que probablement Abel a fait puisque le Seigneur a accepté son offrande, sans doute qu'il a offert sur un holocauste, un sacrifice, un agneau de son troupeau. Alors je crois que cette exigence de sacrifice, par cette exigence du sacrifice d'un animal, Dieu voulait tout simplement montrer la gravité des péchés de l'humanité à ses yeux. Le péché, la Bible nous dit à plusieurs reprises, le péché est quelque chose de très grave à ses yeux. Le péché mérite le sacrifice expiatoire. Quelqu'un qui prenne la place du pécheur. Et en même temps, il voulait indiquer par ces sacrifices d'animaux la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour citer la phrase de Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jésus-Christ qui allait venir parmi nous pour prendre sur lui les péchés de l'humanité tout entière. Donc c'était une manière prophétique et symbolique de préparer la venue du Christ en montrant la gravité du péché. Il fallait que du sang soit versé pour la purification des péchés. Or, l'offrande de Caïn ne répondait pas à cette attente de Dieu, nous le voyons dans le texte. Cette attente requise par la loi du Pentateuque, alors que celle de son frère Abel correspondait au plan de salut prévu par Dieu. Caïn a donc accompli un acte religieux, parce qu'il s'agit d'un acte religieux qui semblait très intéressant, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas été agréé par Dieu. Ça veut dire qu'il y a parfois des choses que nous faisons et qui ne sont pas agréées par Dieu, peut-être même dans nos cultes, et qui ne sont pas agréées par le Seigneur. Cela me fait penser qu'encore aujourd'hui, et je pense que nous devons prendre ces textes pour nous, encore aujourd'hui, il y a des gens très religieux, très pieux, un peu partout, très sincères même dans leur dévotion pratique, dans leur dévotion religieuse, mais qui ne font pas ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Des personnes qui ne font pas ce que Dieu attend d'elles. Ils croient en Dieu, mais ils ne l'adorent pas comme il convient et selon les exigences de la parole de Dieu. Celle que nous venons de voir et d'autres que nous n'avons pas encore vues, mais qui sont toujours dans la parole du Seigneur. Nous devons les connaître et nous devons nous approcher de Dieu en remplissant ces conditions-là, si nous voulons que Dieu accepte notre culte. Et nous ne devons pas venir devant le Seigneur à notre convenance, à nous, selon nos traditions, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Je pourrais peut-être donner au moins deux exemples de ce que je suis en train de dire. Jésus nous a dit comment il fallait prier. On a un enseignement dans la Bible et de la part du Seigneur Jésus qui était un homme de prière. Il nous a dit comment il fallait prier. Il nous a dit d'adresser nos prières à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Or, malgré l'enseignement du Seigneur sur la prière, il y a encore aujourd'hui des gens qui continuent à adresser leurs prières à des morts. À des morts, alors que la Bible l'interdit. C'est du spiritisme. Nos prières doivent être adressées uniquement à Dieu. Ce sont sans doute des personnes qui ne connaissent pas l'enseignement de la parole de Dieu sur la prière. Et c'est vrai que lorsque je me réunis avec d'autres chrétiens, je le dis souvent, je me réunis avec vous, mais au nom du Seigneur. Nous allons nous centrer sur le Seigneur, sur la Trinité, sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un autre exemple, la parole de Dieu nous interdit de faire des images taillées et de nous prosterner devant elles. Et d'en faire des idoles, c'est écrit même dans les 10 commandements, les 10 paroles essentielles de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est écrit, c'est très clair. D'ailleurs, la Bible, dans d'autres textes, nous dit pourquoi nous ne devons pas faire cela. Je cite le psaume 115, « Les idoles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds, ils ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Pardon. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Et après, il dit, Israël, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. D'ailleurs, le prophète Ésaïe dit que ceux qui portent leur idole de bois n'ont pas d'intelligence. C'est-à-dire qu'il manque d'intelligence spirituelle. Il manque d'intelligence spirituelle. Et Ésaïe, donc le prophète, exhorte le peuple à se tourner vers le Dieu unique et à l'adorer lui seul. Alors, si nous voulons savoir comment nous devons nous approcher de Dieu, nous pouvons tout simplement chercher à connaître ce que le Christ et les apôtres, comment le Christ et les apôtres l'ont fait, et nous devons suivre leur exemple. Nous voyons donc que Caïn n'était pas une personne irréligieuse. Il a accompli un acte religieux, mais à sa manière. Seulement, il ne l'a pas fait comme Dieu l'attendait. Et c'était ça le problème. Alors aujourd'hui, avec toute la révélation que nous avons l'ensemble de la Bible avec nous, le Pentateuque, plus les évangiles, plus les lettres des apôtres, et nous avons une révélation beaucoup plus grande qu'à cette époque, n'est-ce pas? Donc nous pouvons savoir comment nous approcher du Seigneur. Et surtout, savoir que c'est par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui a versé son sang pour nous, que nous pouvons le faire. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les apôtres ont prêché le même message. Il n'y a sous le ciel aucun autre qui puisse nous sauver. L'apôtre Pierre a écrit, il a fallu que Jésus-Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. Si nous voulons comprendre vraiment la signification de cet épisode, de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel et pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, nous devons nous tourner sans doute vers les plus anciennes interprétations de Genèse 4 qui se trouvent même dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament. Et c'est par là que je vais terminer. Le Nouveau Testament fait souvent référence à cet épisode. Et, par exemple, la première épître de Jean évoque Caïn et en fait une figure du mal. Je cite, « Nous devons nous aimer les uns et les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. » Qui était du malin ou du mauvais, selon d'autres traductions, c'est le diable, et qui tua son frère. « Et pourquoi le tua-t-il » dit-il. Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Dans la lettre aux Hébreux, Abel y apparaît comme une figure du juste, dont l'offrande à Dieu était le signe d'une foi forte et authentique. Je lis au chapitre 11. « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. » Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La même épître fait d'Abel une figure de Jésus-Christ au chapitre 12. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, et du saint purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Donc le sang d'Abel qui est pris aussi comme exemple, comme illustration, mais du sang plus éloquent, plus purificateur et plus éloquent que celui d'Abel, le sang de Jésus-Christ. Mais ce qui va aussi prouver que le cœur de Caïn n'était pas en bon état, c'est ce qui va se passer après, n'est-ce pas? Lorsqu'il apprend que Dieu n'agrée pas son culte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son frère dans le champ. Et il se met, le texte, le verset 5 dit qu'il fut très irrité, son visage fut abattu. Et lorsque Dieu lui demande pourquoi il s'est mis dans cet état-là, et l'encourage à ne pas succomber à la tentation, au lieu de changer, et de chercher à bien faire, à bien agir, n'est-ce pas? Il va agir encore très très mal, parce qu'il va tuer, il va se disputer avec son frère, il va le tuer. La colère et la jalousie, ce sera le thème d'une autre prédication sans doute, la colère et la jalousie l'ont poussé à commettre cet acte irréparable. Quand notre cœur n'est pas en bon état, quand notre cœur n'est pas en bon état, nos paroles et nos actions risquent de faire des dégâts considérables, des dégâts aux conséquences néfastes. Alors, c'est vrai que c'est un texte très, très riche et il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on peut voir par la suite. Mais je terminerai avec une question ce matin, une question que chacun de nous doit se poser. Dans quel état, finalement, se trouve mon cœur lorsque je m'approche du Seigneur? Dans quel état? Est-ce que mon cœur est comme celui d'Abel ou comme celui de Caïn? Suis-je vraiment en état de m'approcher de Dieu? Alors qu'on sait que ce n'est pas simplement les chants, les paroles qui comptent, mais l'état de notre cœur. Est-ce que quand je viens adorer le Seigneur ou quand je m'adresse à lui dans ma maison, est-ce que le Seigneur accepte ma prière et mon adoration? La Bible nous exhorte en ces termes, dans le livre des Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal.